à l'humeur, à le brasier, qui consumeur.
Brasero, brassage radio. Alors attention, breaking news, une petite équipe du Tarn est partie à l'assaut de la Dépêche. Ouais, 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 le journal de la démocratie qui a une position de monopole. Alors monopole, on n'ose pas dire sur l'information, on va dire la vente de papier imprimé avec des mots du pouvoir. Bref, le journal du coin a un concurrent qui vient le chercher en kiosque sur l'ensemble de l'Occitanie. Pas moins de 29 000 exemplaires imprimés, distribués aux quatre coins de la région. Attention, Mazette, ça valait bien de faire un petit entretien exclusif dans Brasero, non? Alors voilà, ça s'appelle L'Employé. Cette fois-ci, on n'a pas fait mille montages, ni non plus préparé de sketch, non, non. Juste une liste de questions et on a invité l'équipe nous raconter et le pourquoi et le comment. Donc on va écouter Ninon et Nina, pas Lise, qui n'aura pas pu venir, malheureusement. Bonne écoute.
Tu préfères Brasero ou France Inter ?
Brasero.
Moi aussi.
Bah, peut-être une question un peu générale de raconter un peu d'où ça vient, L'Empaillé, comment... surtout là, bon là c'est le premier numéro, mais il existait déjà des numéros avant.
Ouais, du coup ça date de 2016, printemps 2016. À l'époque on est une équipe très aveyronnaise et on sort un numéro, enfin sur les, du coup, les trois premières années, on sort un numéro... Je dirais quand on a le temps. C'est vraiment quand on a de la visibilité sur les trois mois qui arrivent, on se dit c'est parti, on en sort un. Et après, c'est un peu en fonction des dispos. Et ce qui fait qu'on a sorti des fois au bout de six mois, il y en a un qu'on a dû sortir au bout d'un an. Enfin, on va dire c'est chaotique au niveau du rythme. Et des fois, on va dire, enfin, des fois pendant deux mois, L'Empaillé n'existe plus, nous on n'est plus dedans, il n'y a plus de diffusion. Enfin, il y a eu des moments comme ça un peu. Ce qui était des fois pas forcément facile à gérer, alors ça dépendait des personnes, hein, mais moi ça faisait un truc où des fois ça manquait de dynamique, des fois quand on s'y remettait, autant sur l'écriture que sur le coup de fil, l'interview, ouais, c'était des fois un peu dur et c'est peut-être dans les raisons qu'on fait, aussi parce qu'on était plus dispo, parce que l'équipe elle s'est resserrée aussi au début, on a un comité de rédaction, des fois on est 10, on est 12, et on a chuté jusqu'à 2 par exemple. Voilà, maintenant on est trois. Et voilà, après, bon, plein de raisons qui expliquent qu'on est passé d'abord en trimestriel, toujours sur l'Aveyron, avec quand même une diffusion sur une partie du Lot et une partie de la Lozère. Et ça n'empêchait pas qu'on l'amenait jusqu'à Toulouse, dans des librairies, des infokiosques, tout ça. Et voilà, du coup, on est passé en trimestriel...
Pendant un an ?
Pendant un an.
On a tenu ce rythme de trimestriel pendant 3 ou 4 numéros consécutifs. Donc on a, je crois que l'année dernière, on a fait, enfin entre 2019 et 2020, on a fait 4 numéros à la suite. Et là, on a fait une petite pause de 6 mois pour préparer la sortie du régional parce qu'il y avait quand même des choses qui changeaient et du coup, on voulait être sûr de bien être prêt pour lancer le régional.
Voilà, et le régional, pourquoi le régional? Parce que on a notre coéquipière qui n'est pas là, mais qui est en Ariège, du coup, on était un peu obligé de passer à l'échelle régionale pour qu'elle ait le journal chez elle, dans le kiosque de son quartier. Non, c'est aussi, c'est une des raisons, on a été un comité de rédaction qui était un petit peu éclaté, on avait déjà des collaborations, entre guillemets, des gens qui nous faisaient des papiers qui pouvaient habiter de... Même des fois, on a eu des copains de Lille qui ont pu écrire dedans, des copains de Toulouse ou d'ailleurs. Et puis l'envie d'essayer de passer un peu à l'échelle au-dessus. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets où des fois, on est un peu coincé sur l'Aveyron. C'est vrai que... Enfin, coincé, oui et non, mais Moi, quand j'ai fait une enquête sur la bourgeoisie et les riches en Aveyron, ça donnait vraiment envie de faire le panorama sur la région et d'attaquer les réseaux de la bourgeoisie régionale, parce que ça fonctionne pas au niveau d'un département, quoi. Même s'il y avait de quoi dire, hein, c'est pas... Mais bon, c'était qu'un exemple. Après, l'idée d'envoyer le pâté un peu de...
Et après, j'ai l'impression qu'il y a aussi la... Enfin, il y a un truc qui m'a... On reviendra après peut-être sur les articles, mais il y a un article sur le pinard et sur comment on fabrique notre propre pinard et avec quelle méthode. Et j'ai l'impression que ça rejoint peut-être aussi la méthode de fabrication du journal L'Empaillé, un peu DIY, artisanal et avec des valeurs qui s'écartent un peu du professionnalisme, entre guillemets.
Bah, ouais, il y a un mélange. C'est un... C'est vrai que moi, par exemple, je vais avoir le côté plus réflexe journalistique et le reste de l'équipe, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, on serait plus sur des papiers de ce type-là ou sur des fois claquer de la photo, qu'il n'y a pas forcément une signification directe. C'est des choses où on s'agrippe un peu, où on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais ouais, on aime bien... aussi faire écrire des gens qui ont jamais écrit ou peu ou pas tant que ça et avoir ce truc là d'aller-retour de tricoter un peu l'écriture sans on a rarement des papiers qui arrivent où on n'a rien à dire et, comme les nôtres, il y a un gros boulot derrière de réécriture de commentaires
Mais c'est, ouais, moi je trouve que c'est ça qui fait la beauté aussi de ce journal et sa singularité. C'est justement l'entrecroisement entre des enquêtes assez sérieuses, assez journalistiques, très bien sourcées, et puis aussi des récits à la première personne, peut-être un peu plus d'intimité. Enfin, moi, c'est des choses qui me touchent aussi, c'est plus littéraire, c'est... Et le fait que ce journal il puisse combiner tout ça, moi c'est ce que, enfin, je trouve que c'est ce qui fait sa force, et aussi de faire bosser des copains illustrateurs qui viennent apporter. Enfin, c'est important aussi que ça soit un objet qui soit beau et qui raconte plein de choses. Enfin, je sais pas. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'article sur le vin. Mais effectivement, enfin, il y a un des articles dans le dossier vin qui a été écrit par un ami, qui est en fait un cadavre exquis entre plein de copains qui racontent chacun une petite partie de leur expérience sur le vin. Et c'est vrai que j'ai l'impression que des fois aussi, on peut fonctionner comme ça, quoi. Chacun amène. Amène une petite relecture, un regard, et puis après les textes évoluent, et ça je trouve que c'est assez intéressant, que ça soit dans la position où toi tu vas écrire ou bien dans la position d'un relecteur, et on essaie d'avancer ensemble avec des gens qui n'ont pas forcément les outils, mais c'est quand même très bien.
Oui, et puis il y a, bon, je sais pas si on y réussit, mais on a autant, comme tu dis, un peu on n'est pas le journal professionnel avec toute sa rigueur à plein de niveaux. Comme l'idée aussi de s'écarter du journal militant, très cadré aussi, sur les thématiques à aborder. Ce qui peut faire aussi nos faiblesses. Il y a des fois, c'est sûr qu'on n'est pas sur certaines thématiques où on pourrait dire on devrait, parce que voilà, il faut parler de ça, de ça et de ça. Et même si là, j'ai l'impression qu'on essaye un peu plus d'essayer d'être complet. Et là, il a fallu aussi être complet au niveau géographique, parce que c'était l'idée d'essayer de répercuter un peu les différentes luttes ou les lieux, tout ce qui existe dans la région. Et du coup, on a essayé de croiser un peu plus les deux que d'habitude. Même si, voilà, enfin, quand je dis il y a des faiblesses sur les quartiers, que ce soit les quartiers de Rodez ou Toulouse, bon, bah, les quartiers prolo, quoi, peu, les luttes ouvrières, peu. Bon, et c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on n'a pas la dispo, ou on n'est pas... Bon, voilà, en tout cas, il y a un côté...
Ou pour l'instant, y a pas eu une proposition au moment où c'était adéquate d'une personne qui vivrait ces luttes, ou parce qu'on aime bien aussi que les gens racontent des choses qu'ils vivent, pas forcément d'aller nous faire un reportage ou une enquête. Et bien donc c'est la couverture, c'est des personnes qui sont donc autour d'un feu de joie, un brasero. Et c'est pendant l'expulsion de la Masada, non?
Ah ouais, possible, je sais pas.
Si, si. C'est pendant l'expulsion de la Masada, donc il y a une lutte anti-éolienne dans le sud de l'Aveyron. Et voilà. Après, voilà, je pense que les unes de l'Empaillé, elles ont toujours été un petit peu atypiques, mais aussi parce que on voulait pas partir dans la, je sais pas, la facilité d'un truc. Peut-être une photo qui interpelle un peu, où on comprend pas tout de suite quel est le sens, un portrait ou quelque chose. Donc là, ouais, on a trouvé cette photo qui...
Oui, après, on peut s'imaginer plein de choses.
On peut s'imaginer plein de choses.
Non, on s'est pas dit, ouais, quand on la regarde, c'est est-ce qu'elle fonctionne ou pas, mais sans forcément un long débat. Après, oui, on peut se dire, il complote, tiens, qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a pas de...
Ça fait zadiste.
Mais c'est ça qui est chouette, moi, je trouve, c'est que ça, c'est une fête, c'est une occupation. Ouais. Fallait ouvrir, quoi.
Voilà.
On est court sur la lune.
C'est marqué feu. Pourquoi feu ?
Pas feu comme... C'est le top départ, ça y est, c'est parti.
Voilà.
Quoi.
Bon, en même temps, on peut s'imaginer d'autres choses. Il y a des slogans qui commencent par... Ou qui finissent par feu. Qui commencent par feu.
Les deux. Cette question qu'on se posait aussi, c'était... on lit de moins en moins de presse-papier, du coup, comment... Enfin, qu'est-ce qui vous avait donné envie, sachant qu'il y a aussi un site internet de l'Empaillé, d'intervenir...
Qui sort de vitrine. C'est...
C'est les archives, en fait, surtout sur le site, c'est les archives des anciens numéros avec quelques articles. Et puis il y a un lien pour les abonnements et puis le mail et tout ça, mais c'est vrai que...
Là, c'est juste qu'on n'a pas de temps. Enfin, en tout cas, Facebook, Twitter et le site internet, c'est une vitrine pour être présent, pour annoncer qu'il y a un numéro qui est sorti. Mais on ne publie rien en dehors de ça.
La volonté, c'est vraiment papier, papier. Quoi.
Bah, on est sur le papier et on attend que de faire le papier. De toute façon, donc il n'y a pas un choix de faire et le papier et site internet ou autre. Mais moi j'ai toujours fait du journal papier, donc je sais pas. Mais je dis pas que je ferais toujours que du papier. Moi ça me. Je sais pas si on a une position commune là-dessus, moi c'est. Ouais, je veux un objet, moi j'adore lire les journaux, je veux filer un objet aux gens, je veux être sur le marché, pouvoir... Là, on n'a pas forcément l'occasion, mais quand j'étais à la Brique, on faisait beaucoup ça, les ventes à la criée, c'est des super moments où...
La Brique, tu peux le préciser.
Donc, ouais. C'est un canard du même style, un peu, qui est à Lille depuis 10 ans, et auquel j'ai participé. Et ouais, je sais pas, la dernière fois, on fait une tournée de diffusion, on va le déposer une pile à la SAM, une entreprise qui est en lutte de Casseville. Et on en laisse 50 à la cantine, et c'est pas possible de faire ça avec un site internet qui a aussi ses atouts. Il y a pas de, c'est pas l'histoire d'opposer, mais il faut des journaux papier.
On s'est même fait engueuler dans le courrier des lecteurs, enfin dans les mails reçus par une dame qui disait « Oui, mais moi j'ai 75 ans, je regarde que des trucs en ligne, vous êtes complètement démodé, le jour où vous serez en ligne, je me bonnerai, c'est n'importe quoi. » Mais moi je suis comme... Comme Simon, je pense que c'est très important d'avoir un objet, et surtout voilà, parce qu'on essaye aussi de travailler avec du graphisme, avec des choses. Et moi, je regarde pas un collage ou une peinture sur un écran. Puis on fait déjà tellement d'écrans dans nos vies respectives que le moment où on lit un journal, puis c'est un objet qui peut traîner partout. Là, on l'a envoyé à tous les bars et les restos d'Occitanie. Un exemplaire gratos en leur disant que bah voilà, qu'ils pouvaient le laisser à consultation dans leur bar quand ils seront ouverts, mais c'est pas grave, hein, juste comme le journal qui traîne sur le bar, quoi. Et ça, ouais, effectivement, on aurait beau leur envoyer un lien internet, ça, je sais pas, moi j'aime bien avoir un journal dans les mains.
Et du coup, vous avez 30 000 exemplaires, c'est ça?
29,
pardon, 29 000 exemplaires.
C'est vachement moins.
C'est vachement moins, oui. Et pareil, ça c'est nouveau, c'est un choix, et c'est pourquoi ?
On a fait un calcul, on faisait un tirage de 6 000 exemplaires sur l'Aveyron et à proximité. On a multiplié par...
par les 9 départements de l'Occitanie.
Ça fait 29 000. Non, c'est aussi un peu ça d'être à cette échelle-là. C'est aussi le premier numéro en régional, du coup, il y a vraiment l'idée d'essayer d'arroser, entre guillemets, tous les kiosques de l'Occitanie, quasi. Et ensuite, forcément, il y aura...
Un réajustement oui. Du tirage.
Ouais. Si ça tombe le numéro 2, on le sort à 12 000, c'est possible. Mais là, c'est vrai qu'on a démarché chaque... C'est beaucoup les kiosques, hein, les trois quarts des exemplaires partent en kiosque. Donc on a démarché société de diffusion par société de diffusion. Là, il y en a 8 ou 9 sur l'Occitanie. Et là, c'est de voir avec eux, ben, pour un premier numéro, on aimerait bien mettre un peu le paquet, vous en prenez 1000.
Mais par exemple, Toulouse, ils en prennent 8000.
8000.
Donc bon. Déjà, voilà. Puis...
À la fin, on a additionné, on s'est dit, réseau d'autodiff, il va s'élargir, tac, tac, bon, 9000. En se disant bien qu'il y aura un gros gâchis, c'est évident, mais pour une diffusion en kiosque, il y a toujours un gros gâchis. Quoi. C'est un peu
mais pourquoi
Pourquoi
Pourquoi c'est quoi le coup que vous tentez en fait? Parce que. Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas nombreuses. C'est beaucoup de travail. Faut le diffuser, mais on ne sait pas qui va le prendre, etc. Pourquoi quoi? Il n'y a peut-être pas de réponse. Hein,
quand vous faites Bras Zéro, je ne sais pas quel effet vous attendez. On attend tous que tout ça, de Bras Zéro à l'Empaillé, de Yata, de tous ceux qui font de tous ceux qui occupent des lieux, des squats, qui font des manifs, des occupations d'usines, que tout ça fasse monter une mayonnaise aussi souvent que possible. C'est un peu. Alors, on n'est pas que là-dessus. Hein, c'est pas que un journal pour la lutte. C'est aussi voilà pour que les gens ils lisent autre chose, pour faire partager plein de choses. Mais voilà, la motivation, je dirais qu'elle est principalement là, en tout cas pour moi. Après une grosse diffusion, moi je pense aussi, c'est des fois je trouve ce qui manque, alors peut-être pas que dans la presse alternative, comme on dit, ça peut être à plein d'autres niveaux, mais je trouve de pas toujours voir petit, pourquoi il faudrait toujours qu'on ait un tirage à 500 ou à 1000, pourquoi on se mettrait pas au niveau de la Dépêche, même si on rigolait là-dessus, de partir à l'assaut de la Dépêche. Mais pourquoi on ne ferait pas un tirage qui
est un pari,
qui
ouais.
est de la gueule quoi. Voilà. Pourquoi on n'essayerait pas d'être dans tous les kiosques et puis de voir ce que ça donne. Et puis, s'il faut diminuer par deux le numéro prochain, ce ne sera pas grave. Et on fera en fonction des ventes, entre guillemets. Hein, c'est un peu ça. Un peu, en fonction des lecteurs, des lectrices. S'il y a du monde, on continue. S'il y a un peu moins, on fait un peu moins.
Mais bon, pour l'instant, ça répond bien. Enfin, là, ça fait 2 semaines qu'il est en kiosque. Et c'est vrai, quoi, tous les jours, on a une dizaine d'abonnements en plus. Enfin, ça, on a des bons retours, des gens qui disent « Merci, ça fait trop du bien, en fait, de lire ça, quoi. » Donc, il y a quand même des choses qui vont dans ce sens. Après, bon, j'arrive pas à quantifier le nombre en centaines de milliers. Mais en tout cas, ouais, ça répond vraiment, je pense, à un besoin des gens, quoi, de lire une presse différente.
Non, puis après, peut-être, c'est comme vous disiez avant, c'est-à-dire que peut-être ce truc de partir à l'assaut de la Dépêche, c'est pas tout seul, en fait. Que ça fait caisse de résonance, moi, j'ai l'impression. Donc là, vous avez mis des Bras Zéro en couverture, je trouve qu'on est vachement flattés de ça, quoi. Nous aussi, on veut partir à l'assaut de la Dépêche. Mais que tout ça fait un tour, en fait, ça fait des espèces de résonances comme ça, où effectivement, ça fait un endroit où il y a des imaginaires, des choses qui peuvent se lire différent que ça enlève un peu de place à la presse dominante, c'est pas pour faire une contre-domination d'un seul canard. Et je suis assez d'accord que les gens ils vont pouvoir lire Saxifrage, Le Point, et que ça fait un truc. Et ça fait quand même vachement plaisir. Quoi. Ce pari-là, il fait chaud au cœur parce qu'il donne envie aussi de se zèle dans une époque où quand même on est un peu... on n'a pas plein d'occasions de se dire qu'à la fin on gagne, quoi. Donc ça, c'est chouette. Faut le dire.
C'est donc, beau voilà. Ce que tu dis.
Ouais, voilà. Non, mais maintenant que c'est dit, on peut passer à des choses sérieuses.
Voilà. Extrait.
Toulouse 2050, une métropole rayonnante. Essai de fiction rétrospective garantie sans une goutte d'optimisme.
Let's dream la vie en rose. Vous sortez de la gare, un vaste parvis vous offre un large panorama de la ville. Vous hésitez. Allez-vous emprunter la rue Bayard pour arriver directement sur Alsace-Lorraine Marketplace et les 42 km de vitrine du centre-ville? Ou bien tenter l'expérience unique de descendre les Ramblas? Cette seconde option vous permettrait de voir de plus près la tour d'Occitanie, le joyau de la skyline toulousaine, 150 mètres de verdure à l'assaut du ciel. Vous préférez prendre votre temps et un drink à la guinguette du canal. Cela vous laissera le temps de préparer votre city tour dans la ville rose, avant de décoller pour Berlin, New York ou Londres. Vous longez donc le canal sur un large trottoir, dans la douce lumière des vitrines, sous les arbres et l'œil rassurant des caméras. En fait, vous avez l'impression d'avoir déjà décollé. Où est donc passée cette petite ville de province crasseuse et arriérée du siècle dernier? Cette évocation, vous ressentirez presque le craquement des ossements des générations passées sous vos semelles. Une décharge électrique vous remonte le long des chiffres. Qu'il est bon d'être du côté des vainqueurs.
Quand Jean et Kim en avaient 20, la métropole n'en avait pas 10. Elle multipliait les projets pharaoniques. Parc des expositions, grand parc Garonne, zone d'aménagement concerté de Malpère, de la cartoucherie de Bordeaux Rouge de Montaudran, il en oubliait, une troisième ligne de métro et pourquoi pas un RER. Et bien entendu, ce foutu projet de Tézo, devenu depuis grand Matabio Kédoc. Ces verrues de verre et de béton qui avaient dévoré les quartiers de sa jeunesse. Peut-être que sans la gare, ce n'aurait été qu'une nouvelle version du combo bureau-appartement de standing hôtel, avatar de la modernité triomphante comme compense Caffarelli ou la place Occitane. Déjà obsolète, à peine terminée. Mais là, argument supplémentaire, la présence de la gare, renommée pôle multimodal, devait affermir la domination de la ville-centre sur son aire d'influence. Et puis, la bureaucratie métropolitaine installée là était désireuse de construire un environnement à son image, une sorte de siphon qui attirerait inexorablement les travailleurs et travailleuses de la région, engluant dans les voitures et les transports en commun plus d'un million de personnes obligées de dépendre de cette ville-centre. C'est que le projet métropolitain est assez sournois. Les loyers augmentés, poussant à s'exiler toujours plus loin et en même temps les activités, les jobs de merde comme les bons emplois, les commerces et les services se concentraient dans un périmètre assez restreint. Soit dans la ville-centre, soit dans l'un ou l'autre des pôles logistiques, sortes de villes dans la ville, faites d'entrepôts et de quais de chargement. Ce n'était pas seulement un aménagement du territoire, c'était aussi un emploi du temps qui se construisait. Les heures de transport journalier pour le trajet domicile-travail étaient incluses dans le projet. D'ailleurs, les ZUP construites dans les années 70 étaient les seuls endroits où l'on détruisait plus qu'on construisait. La raison profonde du projet s'est allée là sans phare. Dégage, on aménage. Leur métropole était devenue une agglomération tentaculaire, vampirisant les populations au-delà des limites du département. On venait de partout pour y suer sang et eau.
Dépêche qui arrive très vite, oui. On a mis le départ, hein, parce qu'on a dit qu'on s'attaquait à la dépêche.
Ça, vas-y, c'est toi qui parles.
Bah, là, c'était un peu beaucoup une synthèse hein, de ce qu'on avait pas mal déjà écrit sur les numéros à Véronée. Et du coup, on a essayé d'attaquer la dépêche sur ses différentes facettes. Sa facette de collabo... 39 et 45, qui est quand même quelque chose qui est en tout cas peu connu, je sais pas, j'habite pas à Toulouse, mais peu relayé, voire nié complètement par la dépêche. Et j'ai eu un petit doute parce que la dernière fois qu'il y a eu une parole publique là-dessus, alors il y a eu le livre de Claude Diabre, mais il y avait aussi l'hebdo Tout Toulouse, alors qui paraît en 2000 par là, qui s'est tout de suite fait attaquer en diffamation et qui a perdu. Et du coup, mais bon, jusqu'ici, voilà, on n'a pas de nouvelles de la dépêche, donc tout va bien, ça veut dire qu'on peut le dire. Et aussi, il y a la venue de Bousquet, aussi l'ancien chef de la police de Vichy, qui sera dans la dépêche pendant 10 ans, enfin dans le conseil d'administration.
Ils n'avaient peut-être pas lu son CV.
Oui. Oh. Bah oui. Et après, oui, il y a leurs affaires judiciaires. Bon, ça c'est pas forcément étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il soit toujours là, bailé comme sa famille. Pendant leur procès pour abus de biens sociaux, les titres c'était attention, la dynastie en train de tomber, tout ça. Non, ils sont toujours bien là, plus qu'avant. Et même là, on voit les dernières affaires, hein, que ce soit. que ce soit sa collaboratrice qui avait frappé. Et... Bon, bah ça, on en a parlé un petit peu. Bon, il est toujours là. Là, c'est une affaire de viol sur mineur qui date, hein, mais un long article de Mediapart, et c'est parlé ailleurs, quoi. C'est quelque chose, localement, nationalement, hein, c'était service minimum. Alors qu'il y en a qui se sont fait bien lyncher, ils s'en sortent très bien. Bon, ça, c'est le côté des affaires, de la famille. Après, il y a le journal. Hein, je sais pas si vos auditeurs et auditrices ont besoin d'une critique de la Dépêche, mais... Bon, c'est... Je sais pas, est-ce que ça a beaucoup évolué sur les 5, 10 ou 20 dernières années? Est-ce qu'on peut dire que c'est un journal qui est de plus en plus pauvre au niveau du contenu, ou est-ce qu'il a toujours été, finalement? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de moins en moins de journalistes, il y a des fermetures d'agences. La pub, est-ce qu'elle est plus présente qu'avant? En tout cas, elle est toujours bien là. Il y a à peu près jamais d'investigation, ou quasi pas. Enfin, c'est pauvre. Et le fait est qu'il n'y a que ça. C'est devenu... Et nous, on avait, dans l'Aveyron, on avait Centre Presse, Un Bout de Midi Libre et La Dépêche. Donc maintenant, c'est le même groupe, c'est Bailey, et c'est les mêmes articles. C'est quand même problématique. On a du copier-coller, vraiment, tous les articles en local, c'est du copier-coller, quoi. Donc voilà, oui. Après, il y a leurs éditorialistes qui mettent la petite pointe d'analyse de bien à droite, très à droite, un petit peu à droite, un petit peu centriste. Bon, mais c'est toujours contre le mouvement social du moment et pour le gouvernement du moment, que ce soit Macron ou Hollande, c'est toujours très partie prenante, sans problème.
Il y a des illustrateurs qui sont dans l'empaillé depuis quand même quelques numéros, enfin même certains depuis bien longtemps. Des gens pas mal aussi d'Aveyron et des copains. Et c'est vrai que il y a autant de propositions de gens qui veulent proposer un papier que de gens qui disent « Ah ben moi j'illustre ». Enfin, il y a des gens qui ont envie, quoi. Et c'est vrai que la manière qu'on a de fonctionner, c'est... Aussi, on demande aux gens c'est pas envoyer une illustration n'importe quoi, on leur donne un espèce de petit synopsis, résumé du thème qui va être abordé, de sous quel angle il va être abordé.
Ou de l'article s'il est fini.
Ou de l'article s'il est fini, ou en tout cas d'un premier jet. Et après les gens créent par rapport au texte. Et ça, du coup, je trouve que ça fonctionne très bien, parce que c'est pas un effet de où est-ce que je vais mettre... il est sympa ce dessin, mais ça va pas sur cette page. Donc il y a vraiment une belle osmose entre le texte et le dessin. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de techniques. Ouais. On a de la linogravure, là il y avait de la peinture, il y avait beaucoup de collage dans ce numéro, alors qu'avant il n'y en avait pas trop.
Le vin,
tu veux ?
Ah, il y a 5 pages, quand même.
Ouais, 6 même, avec la photo. Bah, le vin, c'est un dossier, en fait, finalement, qui a été fait... Moi, j'en ai fait une partie, et un copain a fait l'autre. Et on a décidé de croiser un peu deux récits, parce que c'est vrai que nous, ça fait quand même quelques années qu'on s'intéresse à ça. Donc, le premier article, il s'appelle « Fragments d'histoire de vin clandestin ». Et en fait, c'est des récits de comment... un petit peu s'approprier les vignes abandonnées et les récolter et en faire du vin et essayer de faire ses premières expérimentations de vinification.
Fragment d'histoire de vin clandestin. Des fruits qui pourrissent sur pied dans des vignes abandonnées, délaissées pour des raisons multiples. Depuis un petit bout de temps déjà, des amis vignerons nous parlaient de ça. Alors que notre bande de potes se trouvait dans les corbières pour les aider à ramasser leurs raisins, en cette fin d'été 2015, un copain nous embarque sur une parcelle en bord de route qui commence à s'embroussailler. C'est du raisin blanc, un mélange de grenache blanc et de muscat, a priori. De toute façon, nous, on n'est pas du coin, on n'y connaît rien, et surtout, on est là pour l'ivresse de l'errance, la magie du temps passé avec ces vignerons qui nous font oublier les calendriers et les horloges. Ici, on est loin. Rien n'est clair, tout est possible, corbière peut-être, dit le dicton. On se pointe sur la vigne sans rien demander à personne. Le pote vigneron nous dit qu'il est évident qu'elle ne sera pas vendangée. Effectivement, elle n'a pas franchement la même allure que les parcelles voisines. Nous sommes une petite dizaine et une bonne matinée suffit à remplir le camion de ces grappes si délicieusement sucrées. Après cette maintes fois hydratée au jus de raisin déjà fermenté, nous ramenons le butin dans un garage du bled d'à côté. En bon apprenti, nous suivons les instructions du copain qui fait du vin. On charge le pressoir et le jus commence à couler. Le souvenir de cette presse est encore intact dans mon esprit, gravé dans la mémoire comme la balise de départ d'un sentier. Le son du cliquet du mécanisme, l'odeur puissante d'une récolte de raisins, l'obscurité dans ce garage, la barrique qui se remplit et l'ivresse qui rend ces instants intemporels. Le tonneau rempli, il restait du raisin à presser. Les mares et les dernières grappes intactes finirent dans l'alambic pour nous offrir un alcool qu'on ne retrouvera jamais aussi parfumé. Aujourd'hui, le flacon qu'il me reste me permet quelques voyages dans le temps. À ce jus soigneusement déposé dans un tonneau, rien n'a été ajouté, rien du tout.
Donc le copain qui a écrit l'article, là, il a demandé à plusieurs personnes de raconter des petites bribes de comment on devient vigneron, enfin vigneron, comment on essaye d'être vigneron. Et je trouve que c'est un article qui est assez intéressant et qui est suivi quelques pages après par un petit tuto de comment faire ton vin toi-même.
Ce qui est assez simple finalement, enfin, quand on parle de vin naturel.
Ce qui est assez simple, après il y a des choses à savoir, il ne faut pas se rater sur des trucs d'hygiène et tout, mais effectivement, moi par exemple, j'avais des choses que j'avais l'impression de savoir, et puis en lisant l'article, par exemple, je ne savais pas que sur une carte IGN, au 1/25 millième, les vignes elles ont un code particulier, elles sont signifiées, et que tu peux par exemple, en chopant une carte IGN, te dire là il y a de la vigne, là il y a de la vigne, là, et puis tu fais un tour en voiture, et sur les 10 vignes, tu peux être sûr qu'il y en a quasiment une qui sera abandonnée.
Un rituel est né. À chaque fin d'été, un groupe se réunit pour une journée de cueillette sauvage. D'année en année, le protocole de vinification s'affine et on apprend des choses qui nous permettent de faire des choix. Égrapper ou pas, piger ou pas, aérer le jus, varier les durées de macération, etc. Mais quand on choisit d'être strict sur le fait de ne rien ajouter, la recette reste globalement la même. Goûter le raisin, couper, goûter, mettre en cuve, goûter, attendre, presser, goûter, attendre, attendre, goûter, goûter, encore, goûter, goûter encore un peu, goûter, et bim, en bouteille. Depuis 2015, nous en avons rencontré d'autres qui empruntent cette route du vin clandestin. Des Cévennes au Luberon, en passant par l'Ariège, la Bretagne, la Loire ou le Languedoc. Les vignes abandonnées trouvent souvent quelques opportunistes pour s'en saisir. C'est l'occasion de belles dégustations, avec ces innombrables cuvées singulières et souvent sans lendemain. Il est rare de pouvoir retourner sur une parcelle l'année suivante, si elle n'a pas été arrachée entre-temps.
C'est super, enfin, moi j'ai l'impression qu'on se fait plaisir avec ces nouveaux vins, on réinvente un peu qu'est-ce que c'est que de boire du vin, et ça c'est ce que j'ai essayé moi d'écrire dans l'article d'après sur les cépages interdits. Qui est aussi un prétexte, hein, de parler des cépages interdits qui ont été interdits en 1934 et qui sont toujours interdits, mais aussi pour parler un peu plus de qu'est-ce que c'est le vin et comment on a été formaté par une pratique assez snob et assez élitiste du goût du vin, et qu'en fait se réapproprier et la culture de la vigne et les manières de vinifier dans des choses de manière un peu plus sauvage, ben, c'est aussi... réinventer notre palais, c'est aussi c'est produire notre propre vin, et voilà, je sais pas exactement quoi dire, peut-être que je vous encourage à lire l'article.
Ça brille, ça pétille et ça glisse de l'univers liquide, un truc vivant nous pénètre, ça énerve autant que ça réconforte. On essaye de le comparer à du connu, on le décortique avec des sourires, et on regoute et on retrinque encore les couleurs, les vapeurs, ce léger gaz, les tanins, l'alcool, le sucre résiduel, autant d'images et de souvenirs qui nous dessinent des tableaux, des films ou des livres encore remplis de souvenirs.
Bah rien, sinon de dire que ouais, l'empaillé il est en kiosque, il est a priori dans tous les kiosques, on a aussi pas mal agrandi notre réseau d'autodiffusion dans des librairies, puis dans des cafés asso, des fois dans des petits magasins de produits paysans, bon ça c'est plus vers chez nous en Aveyron que vers Toulouse, mais il y a de plus en plus d'endroits où il est disponible, et c'est bien. Je sais pas, t'as une idée, toi, de quelque chose ?
On cherche un grand local vitré en plein centre de Toulouse, gratuit.
Au sommet d'une tour de verre.
On va lancer une grande campagne de recrutement. on va poster bientôt 10 annonces de CDI, là, donc on a besoin de place. On a besoin de...
Ouais, du coup, moi, je voulais vous demander si ça nous fait rêver, ce projet. qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut amener à ce projet et comment on fait pour amener quelque chose donc est-ce que vous avez des adresses, des machins, qui on contacte si on a envie d'écrire, si on a envie de diffuser, si on a envie de...
Bon, tout passe beaucoup par le mail. Empaille, empaille2le, @risup.net, risup.net.
Oui, effectivement, s'il y a une proposition de diffusion, ou même des envies de relayer des choses qui se passent vers chez vous, écrire. Et puis un article, c'est pas forcément une double page, hein, ça peut être aussi une brève, ça peut être aussi un petit format pour commencer, parce que c'est vrai que ça peut faire peur de se lancer, mais. Mais voilà, on est carrément d'accord d'en parler avec vous, en tout cas.
Hello, extrait. Hello, gardez le contact. Hello. Même les fêtes familiales, interdites. Je ne regretterai pas les dragées et les fleurs en plastique, mais le bout de la nuit où l'ivresse gagne tonton René. Le cul dans le champ d'à côté, il atteint le bout de la vie de son costume usé par le vin, les danses, et se perçoit furtivement comme un être libre. Où peut-on se poser au sec, boire un coup en regardant le réel s'écrouler à nos pieds, attendre que rencontre se fasse ou gueuler son cœur à la face des mondes? Où se prépare-t-on à l'extase? Souviens-toi. Fête sauvage où l'on découvre qu'on n'avait pas encore tout vécu. Manif d'après-m où le mobilier urbain devient brièvement vivant. Petit bistrot lambda où le patron ouvre tous les jours et tous les jours il clope seul sur sa terrasse en attendant la seule habituée qui vient partager sa solitude. Le rat d'oublié où le hot dog décongelé à 1€ est servi avec amour à 2h du mat. Le kebab familial, avec la télé à donf, où faire déborder les tables de junk food est accueilli avec joie. Le café-concert, où la véritable tête d'affiche est celle ou celui qui gueule plus fort que la zic. Le PMU, où les inconnus finissent par jouer ensemble dans une partie de fléchettes à se rouler par terre. C'est prétexte à se sourire, et pourquoi pas se rencontrer, voire s'aimer, entre gens de partout. Ils ont éteint la musique, et se permettent de punir celle qui la rallume pour mise en danger d'autrui. Il est dangereux. La peur a fait tache d'huile. Désolé, mais on annule, il y en a qui le sentent pas. Même nous, même moi. Entre le printemps et l'automne, on a jeté 4 tournées de mes groupes aux oubliettes. Une seule date a été maintenue, on n'y est pas allé. Par peur des amendes pour une date. Merde, comment faire? La teuf avec nos colocs. C'est ça qu'il nous reste pour vivre l'ivresse. Le grand soir, déjà loin, s'éloigne encore à grands pas. Qu'est-ce qu'on invente pour résister ? Eux, ce ne sont pas que les classes dominantes, c'est aussi nous toutes. C'est moi, quand je subis mon héritage culturel et familial de respect de l'autorité et des institutions, de peur de mal faire, quand j'ai peur, peur pour ma gosse, et que je ne me crois pas assez capable pour agir intelligemment, efficacement, quand je pense ne rien pouvoir faire, et finalement, pense mériter ma condition d'incapable. Il n'y a alors plus qu'à se laisser gouverner, comme on laisse l'eau gelée dans les bacs à glaçons. Ce « eux-là », qui est nous-mêmes, crevons-le et brûlons ses restes au carnaval. Ne pas suivre la peur, ne pas jouer selon leurs règles. Ce monde froid n'a que de la tristesse au menu. Ils détruisent volontairement nos espaces de joie de vivre, tant pis pour eux. Sans joie, on n'a plus rien à perdre. Laisse tomber le feu qu'ils vont prendre. Ils n'ont plus peur de nos flammes, alors qu'ils crament. Nos désirs d'autres, de boue, de feux d'artifice, de tympans percés et de bêtises de tout poil deviennent inacceptables, intolérables pour de plus en plus de monde? Quelle place avons-nous pour en parler? Pourquoi ne peut-on pas choisir collectivement nos stratégies sanitaires? On va toutes mourir, mais d'ici là, vivantes ou immobiles?
of silence. Of silence.